Bonsoir Benoît Philippon.
Bonsoir Simi.
Nous allons parler de l'étrange odyssée de la famille Monsieur qui est sortie aux éditions Albin Michel. Je voudrais savoir quel rapport vous entretenez avec la presse People.
Pas très bonne. Pourquoi ? Non, la presse People, je suis pas très fan de cette idée du voyeurisme, pour dire les choses simplement.
Parce que nous plongeons quand même dans une drôle d'histoire, qui est une sorte de saga familiale, huis clos polar, enfin on a le temps d'y revenir, mais quand même qui se concentre sur une famille qui pourrait être inspirée par, je sais pas, la famille Murdoch, par exemple, ou celle de Johnny Hallyday.
Ouais, alors effectivement, il y a une petite inspiration de notre ami Johnny. J'avais envie de jouer. Alors, c'est vrai que dans mes romans, d'habitude, je suis dans des personnages qui sont plus ancrés dans quelque chose de plus populaire. Là, j'avais envie d'avoir un vernis plus strass et paillettes pour montrer. Pour montrer aussi que ces gens-là ont les mêmes problèmes que nous, différemment, mais quand on enlève le côté argent, il y a quand même cette. Ce qui m'intéressait dans ce roman, c'était de travailler autour de la quête d'identité, de savoir qui on est quand on se construit en tant qu'enfant. Et c'est souvent à travers le regard de ses parents, souvent à travers le regard du père, la reconnaissance du père. Donc quand son père s'appelle Monsieur ou Johnny Hallyday, il y a une problématique d'identité et de reconnaissance qui est plus importante. Donc c'était pour grossir le trait dans le bon sens du terme, c'est-à-dire aller dans le sens du conte, toucher à quelque chose d'universel, parce que même si on n'est pas l'enfant de Johnny Hallyday, on a cette problématique d'essayer d'exister au monde, dans le regard des autres, dans le regard de ses parents. Donc c'est vrai que du coup, quand on fait une croisière funéraire et qu'il faut gérer cette problématique de la reconnaissance, et qu'en plus il y a la presse qui est là pour vous observer, ça rajoute un petit gratouillis là où ça fait mal et qui pose la question de l'intimité, du voyeurisme, du déni et de tous ces thèmes que j'aime bien.
Parce qu'il faut tuer le père.
Il faut tuer le père toujours. Oui, il faut tuer le père. C'est un vaste sujet, le père, qui égrène un peu tous mes romans. En tout cas, il faut le confronter, l'affronter. Il y a des pères bienveillants, il y a des pères très positifs. Donc effectivement, c'est une grosse généralité que de dire ça. Mais en tout cas, il faut dépasser quelque chose qui est de l'ordre de l'héritage. Et tout le roman fonctionne autour de cette trame de l'héritage, mais justement, c'est pas la trame de l'héritage de l'argent, c'est l'héritage de qu'est-ce que nous lèguent nos parents, notamment dans les forces, mais aussi dans les faiblesses et dans les failles et dans les fissures. Donc, et c'est quelque chose qui m'intéressait d'essayer d'aborder ce sujet de la reconstruction d'un enfant par rapport aux impacts qu'ont laissé le père sur eux. Alors, on n'est pas dans une, même si on a souvent comparé, et c'est juste la trame à la Festen, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu cette comédie danoise très sympa sur...
Hilarante.
Réunion de famille, où une petite enveloppe révèle qu'il y aurait eu inceste dans la famille. C'est un peu la même idée. Mais c'est ça, c'est la confrontation à tout ce qu'on a accumulé. Quand je dis « on », c'est les enfants, mais pour faire écho avec chacun d'entre nous, et comment on dépasse ça, c'est le passage à l'âge adulte. Et on peut être adulte, on a encore besoin de ce passage à l'âge adulte, et ça se fait souvent dans la confrontation avec les non-dits, les traumatismes, mais souvent, hélas, alors ça peut être aussi à cause de problématiques satellitaires, mais le père, c'est une figure qui revient souvent chez moi comme... quelque chose à confronter, en tout cas, si c'est pas forcément à tuer. Enfin, là, en l'occurrence, il meurt en début du roman, donc ça c'est fait.
Ouais, mais enfin, il triche un peu. On n'en dit pas plus, mais il meurt, mais il triche un peu.
Alors, je sais pas qui a lu le roman ici, et on peut y aller. On va pas du tout divulgâcher, comme on dit, mais en tout cas, il est très présent.
Voilà.
Même s'il est plus là,
on va le dire comme ça.
Ouais.
Mais ce qu'on voit quand même dans votre livre, ce que vous soulignez, c'est que nous restons les enfants qu'on a été, et ça, on ne peut pas s'en décoller, quoi.
Je pense qu'on peut s'en décoller, mais on a des blessures et on a des fêlures, et les cicatrices, il y a un moment, elles partiront pas, mais par contre, on peut apprendre à les dépasser, à vivre avec, voire à les assumer. Donc oui, on est construit dans un moule, et ce qui est intéressant, c'est l'évolution qu'il y a derrière. C'est une la déconstruction et la reconstruction, c'est toujours la mécanique qui m'intéresse dans mes personnages. Donc, ils partent dans tous mes romans, hein, depuis qu'il a bossé, c'est toujours des romans où je parle de construction de personnages qui sont abîmés et qui vont se reconstruire. Des fois, c'est dans le couple, des fois, c'est dans la rencontre avec une personne, des fois, c'est dans les retrouvailles avec une famille. Mais l'idée, c'est pas de se transmuter totalement. On garde quand même un bagage, on garde un ADN, on garde, mais de le transcender, ça m'intéresse.
Ça, parce que ça vous est arrivé?
De quoi?
De transcender.
Ouais, bah, je suis en transmutation permanente. Moi, de toute façon, si vous me connaissez, vous lisez mes romans, hein, c'est un livre ouvert sur ma vie et sur moi et sur les différentes étapes de ce que je peux vivre, ce que je peux ressentir et d'essayer d'être d'être en paix, pas évident, hein, d'aller vers la lumière, pas évident, et d'essayer d'être quelqu'un un peu meilleur que celui que j'étais la veille, quoi. Donc ouais, c'est un travail que je fais en permanence.
Mais du coup, si on lit vos livres, en fait, ce qu'on voit, c'est que vous restez optimiste.
Je suis un grand optimiste négatif, hein, mais c'est-à-dire que j'ai une vision du monde qui est pas ultra positive, hein, mais qui l'a, je veux dire, à moins d'être un... J'ai beau être un bisounours, bon, bah, on voit, hein, qu'il y a plein de choses qui vont pas, que ce soit dans le grand schéma politique depuis toujours, et encore en ce moment, on a des scénaristes tellement géniaux là, dans la politique, où nous, on va être au chômage bientôt, parce que tout le monde dit l'intelligence artificielle va nous niquer notre job. Non, non, c'est les politiques, là, ils sont trop forts, ils font tellement trop loin là, sur leur scénario. Oui, la nature humaine, elle me fait super peur, hein, dans son grand schéma et dans le schéma plus intime. Et je pense qu'en fait, c'est une sorte de méthode Coué. Mon approche de l'optimisme, c'est une sorte d'essayer de m'accrocher à quelque chose qui est essayons d'avoir de l'espoir. Donc, je crée pas une secte. J'écris des bouquins et j'essaie de me convaincre que oui, on peut aller vers ça. Mais c'est un conte. Donc le conte permet de dire ok, derrière un ogre, il peut y avoir quelque chose. Enfin, après l'ogre, il peut y avoir quelque chose de beau qui repousse. Mais voilà, c'est comme un poème. C'est un souhait. Je sais pas forcément que j'y crois tous les jours, mais en tout cas, je m'accroche à ça.
C'est un conte un peu initiatique, ce livre.
Comme tous mes romans, ouais.
Donc c'est la quête qui compte. Et d'ailleurs, à cet endroit-là, c'est intéressant, parce que vous écrivez d'ordinaire des polars. Bon, là, c'est pas un polar, mais quand même, il y a une enquête, en tout cas. Il y a quelque chose de la quête perpétuelle, mais du coup, un peu du conte aussi.
Toujours du conte, hein, ouais. Et alors, j'écris du polar. Alors, j'écris pas du polar, si je peux me permettre de remettre les termes sont toujours un peu compliqués. Moi, je me suis retrouvé... dans la catégorie polar, parce que mon premier roman a été édité à la série Noire, qui a bossé. Mais c'est pas du polar. Enfin, c'est du roman noir, mais c'est pas du polar. Il y a jamais d'enquête chez moi. Il y a des flics. Si c'est des flics, c'est plus des psychanalystes que des. Il y a jamais d'enquête. C'est des situations où je vais aborder des problématiques sociétales. Je vais les dénoncer. Je vais aller assez loin dans quelque chose qui est de l'ordre de la dénonciation et de la colère. Mais c'est pas du polar au sens enquête. Donc je suis pas bon du tout à ce jeu-là.
Encore que là, c'est le cas. Il y a une enquête. Enfin. Il y a une forme d'enquête.
C'est une sorte de cozy crime. Il y a une sorte d'intrigue qui est même pas une intrigue, qui est une sorte de jeu de piste, effectivement, qui est initié par Milan auprès de ses enfants, où effectivement il instigue un jeu d'énigmes pour qu'ils aient l'héritage. Hein. Je spoil à peine parce que ça va être assez vite au début du roman. Mais ça, c'est un jeu que je joue avec mes personnages et avec vous, avec ceux qui ont envie de lire. Mais ouais, la quête initiatique, pour redétricoter, j'écris du roman noir dans les romans, mais moi, je suis scénariste à côté.
Oui,
donc j'écris beaucoup de films. J'écris aussi beaucoup de films d'animation.
Et absolument. Dans les
films d'animation, la mécanique principale, c'est la quête du héros, c'est le parcours initiatique, le coming of age. C'est vraiment... tous les scénarios fonctionnent de cette façon-là. Et donc, en fait, c'est complètement naturel pour moi. Là, vous avez l'impression de... Il y a un petit changement de ton par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire sur les romans, mais par contre, par rapport à ce que je fais dans quelque chose de plus général dans ma carrière d'auteur sur différents supports, ça va dans la continuité de ça. Et effectivement, tous mes récits sont des quêtes initiatiques, des parcours initiatiques du héros qui part du petit padawan à une sorte de Jedi. Alors après, ça c'est la version ultra ultra caricaturale, mais en fait c'est ça, c'est d'aller vers une certaine forme de connaissance et de sagesse et de s'habiter soi-même. Il y a des fois c'est les termes anglais qui me reviennent, mais c'est ça, c'est d'être dans son corps et d'être dans son être et d'être dans son identité. Donc là, ça fait très développement personnel, yogiti, etc. Mais en fait, c'est quand c'est fait avec sincérité, c'est ça. Parce que moi, c'est ça que j'aime dans les récits, c'est quand un personnage a une vraie courbe d'évolution forte.
À force d'avoir écrit plusieurs scénarios, des livres, qu'est-ce que vous avez appris sur la résilience, sur les étapes de la résilience?
Oh là là, que c'est long, que c'est du taf. J'ai appris plein de choses, mais je continue à explorer en fait. Je suis en pleine exploration et la vie me confronte à ça tout le temps. Mais j'aime cette idée, en tout cas j'aime cette idée qu'on peut se relever, qu'il y a cette notion. On parlait du conte, mais il y a vraiment cette notion ça, une fois plus, ça paraît cliché, mais ça l'est pas quand c'est bien illustré. Mais le côté des terres brûlées naîtront, enfin la chanson balle que j'arrive pas à citer. Mais par exemple, dans Vaiana, il y a une Vaiana, c'est une animation Disney, je sais pas si vous avez vu, où l'île est gangrénée par la colère, c'est un volcan, et après elle se transforme en une créature de nature luxuriante. Je tiens à dire que cette séquence a été piquée à notre film Moon, le gardien de la lune, littéralement, parce que Disney a eu le book de notre film avant. Donc je travaillais déjà sur cette idée de l'être maléfique, en fait, hein, sa colère est illustrée par le côté volcanique, et qu'effectivement la résilience, la paix, l'harmonie qu'il retrouve, en fait, se transforme dans un truc dans quelque chose qui est de l'ordre de la nature, qui repousse. Et en fait, c'est très joli quand on la montre, quand on l'illustre comme ça. Mais symboliquement, on vit tous ce genre de choses. Alors après, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on reste dans le côté calciné, et ça s'appelle la nécrose, ça s'appelle un cancer, ou est-ce qu'on essaye de dépasser ce truc-là? Ça s'appelle le travail sur soi et la résilience. Donc en fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on peut être on peut être très réaliste, et je peux raconter cette histoire-là en racontant comment ils vont tous se faire un cancer s'ils ne gèrent pas leur problème, ou de façon très allégorique et parler d'une odyssée mythologique. Et moi, j'aime bien jouer un peu sur les deux tableaux, quoi.
Et d'ailleurs, à propos de contes, il y a des clins d'œil. Enfin, il n'y a pas des clins d'œil que aux contes et notamment à la mythologie grecque dans ce livre. Mais bon, il y a beaucoup de clins d'œil, mais il y a aussi des clins d'œil à la mythologie grecque, à commencer par le nom du bateau même.
Ouais, le Styx.
Donc il y a des, dans votre écriture, de façon plus large, et pas seulement dans ce livre, mais aussi dans ce livre, une référence quand même aux contes d'enfance.
Ouais, toujours, parce que j'aime bien l'idée du conte d'enfance pour adultes. Mais ça, je l'ai vraiment initié avec Cabossé, dans mon premier roman, qui est un conte, hein, c'est La Belle et la Bête. Hein, donc, et j'utilise la figure du Minotaure, du Centaure, tout du long. La prostituée du bord d'autoroute, c'est une sirène. Enfin, en fait, d'ailleurs, Cabossé, j'aimerais bien un jour l'écrire à la hauteur d'enfant. Mais là, parce qu'en fait, c'est, une fois de plus, c'est des outils, c'est des codes narratifs. Donc c'est toujours les mêmes. C'est une grille narrative qui dit... On peut le faire sous forme conte, on peut le faire sous forme réaliste, on peut le faire sous forme noire, on peut le faire sur forme rose, et raconter quelque chose qui va parler soit aux adultes, soit aux enfants. Donc celui-là joue sur les codes de la mythologie. C'était aussi pour pas être... parce que bah, c'est le père piège sa famille en disant, on va faire une croisière, vous allez devoir répandre mes cendres au nord de l'Islande pendant une aurore boréale. Donc c'est... Il les emprisonne, quoi. C'est un huis clos en haute mer, donc c'est presque une torture psychologique, mais c'est aussi une croisière pour le Styx, donc c'est le fleuve du passage du monde des vivants au monde des morts. Donc c'est l'accompagnement d'une famille au décès de son père, et l'accompagnement d'une famille à essayer de se retrouver soi. Donc c'est intéressant d'utiliser des figures mythologiques, parce que ça permet d'avoir des images qui des fois sont peut-être plus jolies ou plus symboliques que de faire une explication de texte sur la psyché des personnages. C'est intéressant aussi, hein, on peut faire quelque chose de plus psychanalytique, mais moi j'aime bien, je trouve que certaines images sont plus parlantes, et puis c'est aussi un voyage onirique, et je veux pas perdre l'aspect divertissant dans la littérature ou dans le cinéma.
C'est la raison pour laquelle on rit en vous lisant.
Est-ce qu'on rit beaucoup? Oui, c'est la raison pour laquelle on rit. Je sais pas, c'est marrant cette histoire de d'humour qui revient souvent dans ce que je fais. Je pense que c'est mon disjoncteur, c'est ma façon de gérer les moments de tension. C'est plus prégnant dans les autres romans, parce que typiquement, même Hugger, j'entends beaucoup, c'est le roman le plus drôle que j'ai jamais lu, c'est l'histoire d'une femme qui se fait taper dessus pendant un siècle. Donc, c'est la dénonciation de violences faites aux femmes, et en même temps, c'est perçu comme un roman humoristique, qui n'est pas humoristique, parce que ça ne rit pas de cette situation, mais elle a un tel bagou, elle a un tel sens de la formule, qu'en fait, ça véhicule de l'humour. Mais cet humour, il est fait pour dépressuriser l'horreur de ce que je dénonce, en fait. Et donc, en fait, là, là, je suis moins dans l'horreur, hein. C'est un roman qui est quand même beaucoup moins dur que les précédents. Ce qui leur arrive, c'est des douleurs et des souffrances, mais on est plus dans du noir. Et donc, l'humour, c'est un bon véhicule pour amener aussi du décalage. Et la notion du décalage, c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai pas envie d'être... Je suis vraiment pas quelqu'un qui est ancré dans le monde réaliste et dans la narration réaliste. C'est quelque chose... C'est ma fuite de... Justement, je pense que c'est mon côté déni. Je pas... Ça me permet d'être optimiste et de pas être réaliste. Parce que si on est réaliste, je vois plus de positif, quoi.
Mais de ce décalage dont vous parlez, il est intéressant dans votre écriture et dans vos personnages.
Merci. Pardon, il y a une question.
Il est intéressant parce qu'en fait, c'est... un refus absolument de rentrer dans une case.
Ouais, c'est bien, non?
C'est bien.
Écoute, je sais pas, oui, un refus de rentrer dans une case, non, mais une case narrative, une case de code, ouais, non, j'aime pas ça du tout.
Ça veut dire la possibilité pour vous de pouvoir aller explorer, comme vous l'avez très bien dit, tout d'un coup, du très noir, du très léger, c'est ça?
Ouais, moi, j'ai pas de sujet à mélanger, et je trouve ça... J'ai en tant que... En tant que lecteur, en tant que cinéphile, en tant que personne qui aime la musique, je peux écouter plein de choses. Je peux dans la même journée écouter du classique, voix de haute contre et du jazz et du rap. Ça pose pas de problème. Et je pourrais mélanger ça dans un film, par exemple. Et j'ai aucun sujet à aller me nourrir à la fois de Eisenstein et de Miyazaki en cinéma et en littérature, c'est pareil. Donc c'est vrai que d'un coup, devoir respecter des cases, je trouve ça ultra contraignant et j'aime pas la contrainte. Et j'aime pas les frontières en général, dans tous les sens du terme. Et c'est vrai que moi, j'ai construit une identité particulière. Est-ce que c'est... Moi, j'ai grandi en Afrique, aux Antilles, au Canada, en France, donc j'ai vécu dans des ambiances très très différentes et j'ai un rapport à la porosité justement de ces frontières que je trouve plus intéressant. Donc je me censurerai pas dans ce que j'écris en me disant oh là attention parce qu'il y a un public qui suivra pas. Et c'est vrai que j'ai un peu souffert pour le coup, pas dans je reviens sur l'histoire d'être à la série noire, c'était super, mais d'un coup d'être labellisé auteur de romans noirs dans le milieu de la littérature, c'est très 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 justement, on met vraiment les choses dans les cases, hein, on est dans du roman noir ou dans la blanche, c'est bizarre, hein, c'est très apartheid comme façon de voir les choses, c'est... Est-ce qu'on peut pas être un peu plus fluide et ça, ouais, moi, ça m'a posé... J'ai vraiment découvert à ce point, parce qu'en cinéma, on n'est pas du tout aussi radicaux sur ces positionnements. Il y a plein de réalisateurs qui vont faire... regardez la carrière de Clint Eastwood, qui peut faire Impitoyable un jour et Sur la route de Madison un autre jour. Ça, personne ne questionne ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'en roman, d'un coup, on a l'impression que parce que je fais celui-là, je fais « Ouh, attention, il y a un move incroyable !» Bah non, en fait, et Spielberg, il fait ça tout le temps. Enfin, en cinéma, il y a pas de sujet. Spielberg, il avait quand même commencé par « Les Dents de la Mer », il fait la liste de Schindler. Enfin, j'ai des exemples comme ça, il y en a un million. Et c'est bizarre, en littérature, il y a plus cette notion de répondre à certains de ces codes-là. Et donc, moi, je me la pose pas.
Et vous avez parlé du fait d'avoir grandi dans différents pays. Et puisque dans ce livre-là, quand même, vous nous invitez beaucoup à réfléchir sur l'enfant qu'on a été et ce qu'on a fait de nos souvenirs et quel adulte on devient. Quand vous étiez enfant, vous saviez que vous auriez envie de raconter des histoires?
Ouais. Ouais, j'étais déjà dans l'évasion totale. J'étais fou de films, je voulais faire des films tout de suite, très vite, et c'était, ça m'a imprégné directement. C'était marrant parce que j'ai retrouvé des vieilles cartes postales que j'écrivais à mes grands-parents quand j'habitais en Côte d'Ivoire, et je leur disais papy, mamie, tout va bien, je viens de voir Indiana Jones, et je leur racontais le film. C'était ça, la carte postale. Je leur faisais alors il se passe ci, il se passe ça, bisous, au revoir. Et j'étais à fond, et c'est marrant parce que ça symbolise bien la personne que je suis devenue après, parce que on avait à l'époque, moi je suis vieille génération, donc on avait un magnétoscope. C'est pas tout le monde qui avait un magnétoscope. On avait deux VHS et on avait Livre de la Jungle d'un côté et Certains Lèmes Chauds de l'autre. Et donc je passais ma vie à regarder l'un et l'autre. Et cette cassette de Certains Lèmes Chauds, on l'a pu, mais c'était génial parce que c'était présenté par une speakerine qui était donc une ivoirienne en boubou, un énorme boubou incroyable, super coloré, qui disait le film de ce soir, Certains Lèmes Chauds avec Marilyn Monroe. Et donc j'ai vu ce film un million de fois avec cette dame en boubou, avec ouais, qui disait Marilyn Monroe. Et voilà, ça c'est tellement ça quand je dis décalage, cette scène c'est une scène de film déjà. Bien et sûr. Après on voit un film en noir et blanc avec Billy Wilder sur cette grande époque de la prohibition et avec des hommes qui se travestissent en femmes. Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie. Tony Curtis et Jack Lemmon en femme d'un côté, et Balou et Mowgli de l'autre. Et en pareil, mon troisième film culte, parce que j'étais asthmatique à l'époque, donc des fois je devais rester chez moi pendant mes crises d'asthme. Mais c'était mon cadeau, c'est qu'on allait au vidéoclub et j'avais le droit de louer, enfin j'avais le droit, c'est pas une autorisation, mais je louais Amadeus, le film de Milos Forman, qui était mon film culte. J'avais 5 ans, 6 ans, et du coup, comme ça dure 3 heures, je pouvais me passer 3 heures à essayer de retrouver ma respiration en regardant ça. Donc voilà, quand je dis on peut naviguer dans ces univers-là, et derrière, donc je voulais écrire, j'ai toujours voulu écrire des histoires, j'ai toujours voulu être cinéaste, je me suis toujours battu pour essayer d'en faire mon métier, et quand je suis arrivé et quand j'ai commencé à écrire, bah c'est imprégné de tous ces références là, tous ces univers là, et j'avais pas envie de choisir. Donc
c'est peut-être la speakerine qui vous a donné le décalage avec le petit
mais je pense que c'est ouais, je pense que c'est pas du tout anodin.
Oui, c'est pas anodin. Alors du coup, l'écriture à un moment donné, comme celle-ci, elle est arrivée comment dans l'histoire du cinéma?
Comme celle-ci,
ouais, ou... tout seul dans... face à sa feuille blanche pour raconter une histoire qu'on va publier en son nom, sans une équipe après qui va travailler. Qui va
là, on parle de scénario ou on parle des romans?
Ouais, voilà.
Les scénarios, moi j'ai commencé à écrire, au fond de la classe. J'avais une quinzaine d'années quand je me suis dit. J'ai toujours aimé le cinéma et je regardais beaucoup de films, mais un peu comme tout le monde qui aime bien le cinéma. Mais à 13-14 ans, je me suis dit non, mais en fait, va falloir être sérieux. Si je veux vraiment devenir faire du cinéma, faut que je professionnalise, mais que je sois plus rigoureux. Donc là, j'ai commencé à enregistrer tous les ciné-clubs et à mater tous les vieux films et à essayer de me faire une vraie culture. Je matais 2-3 films par jour et en parallèle, bon, faut pas le dire, ma mère va regarder la vidéo, mais. En parallèle, du coup, en cours, je me mettais au fond de la classe et j'ai commencé à écrire mes premiers scénarios, qui n'étaient pas bons, hein, mais au moins, ce qui était cool, c'est que j'ai eu l'opportunité de faire toutes les erreurs des premiers romans ou des premiers scénarios. Je les ai fait très tôt. Et souvent, la problématique quand on écrit, que ce soit un scénario, une chanson, un roman, c'est de penser que le premier truc qu'on écrit, c'est torturé, mais c'est génial, hein, c'est mon bébé, etc. Et on a du mal à se confronter à la critique ou à faut peut-être en écrire un autre, peut-être qu'il n'est pas réussi. Donc, moi j'en ai écrit 2, 3, 4 comme ça, mais je le faisais sérieusement et j'y mettais vachement de trip. Mais du coup, l'avantage c'est quand j'ai commencé à écrire plus professionnellement, que ça arrivait assez vite parce que du coup j'avais assez vite de la matière. J'ai eu mes premiers boulots au cinéma, j'avais 20 ans parce que j'avais des trucs à montrer qui étaient un peu bordéliques. Mais le 4e ou 5e scénario que j'ai écrit, j'avais 18 ans, là, il commençait à être un peu solide. J'avais plus de maturité. Moi, c'est une bonne question. Ça s'appelait comme des enfants écorchés.
Bah, il y avait déjà, on n'est pas loin.
Il y avait déjà une thématique. Ouais, c'était des trucs post-ado. Hein, donc, mais c'était un mélange. C'était un peu... j'avais vu Pulp Fiction déjà, donc elle était une grosse claque dans la gueule. Quand j'ai vu Pulp Fiction, j'ai fait Il y a eu deux films un peu importants à cette époque-là. C'était en 93-94. C'était Arizona Dream de Kurosawa. Donc pareil, génial. Très dans l'onirisme, très dans le symbolique. Et Pulp Fiction, et moi j'ai vu, on a plein d'autres, mais cette notion du décalage. Donc j'ai commencé à écrire comme ça. Donc là, le roman dont je parle, le script dont je parle, c'était des amours adolescentes écorchées, mais avec des flingues à la Tarantino autour de ça. Et ça m'a donné un jeune réalisateur qui cherche un jeune scénariste pour écrire un scénario qui finalement il s'est pas fait, ce film qui était vachement intéressant d'ailleurs, c'était sur les snipers de Sarajevo dont on parle depuis quelques mois là. Donc en fait on a écrit le scénario en 93 94 de cette histoire là. Il cherchait, c'était La fureur de vivre à Sarajevo, donc des jeunes qui géraient ces, qui essayaient de survivre à ces snipers. Et donc moi j'avais été appelé pour écrire les dialogues, j'avais 20 ans quoi.
Mais on retrouve quand même, voilà, dans ce livre là comme dans d'autres, hein, la violence, la difficulté de devenir un adulte, et puis des personnages abîmés, dont les femmes,
ouais,
quand même. Donc c'est une trame assez continue. Elles viennent d'où, ces femmes abîmées, dans votre histoire?
Ça c'est intéressant, et je n'ai pas de réponse à cette question. C'est vrai que tous les, pour le coup, dès que j'ai commencé à écrire vraiment plus sérieusement pour moi des scénarios, et c'est pour ça que je me suis mis au roman après, c'est que je n'ai écrit que des personnages féminins forts et leaders, c'est-à-dire en premier rôle quoi, féminin. Et bah du coup, ça marchait jamais. Enfin, ça marchait jamais. Il n'y a aucun producteur qui suivait. Ça, c'était avant le Me Too. C'est intéressant, quand c'est un personnage féminin, ça passe pas. Parce que, et souvent, on disait, bah ça passe pas parce que déjà, le sujet à l'époque, on parlait pas du tout de la même, la même envie d'avoir des héroïnes. On disait aussi, il n'y a pas de comédiennes qui peuvent porter un film. Il y en avait quelques-unes, mais assez peu, en fait. Et on rentre dans un truc assez effrayant où on disait, bah ouais, alors tu penses à qui en comédienne? Il y a qui sur lequel on peut monter un budget? Et en fait, c'est terriblement cynique comme façon d'appréhender le truc. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire des romans, pour aborder ces sujets que le cinéma ne me permettait pas d'aborder. Et d'ailleurs, force est de constater que c'est toujours un peu bloqué, parce que typiquement, Mamie Luger, qui a un énorme succès, c'est un best-seller, j'ai des producteurs qui sont intéressés, mais ils y courent pas complètement non plus, alors que c'est un boulevard. Donc en fait, c'est intéressant parce que typiquement, moi, dans les films très fondateurs de mon adolescence, c'était Thelma et Louise, qui est un film que je vois régulièrement, qui pour moi est un immense film féministe. À l'époque, je disais pas féministe, je voyais bien, mais par contre, je me prenais dans le plexus la quête de ces femmes, la fuite et le combat qu'elles avaient, et cette idée que le monde des hommes est contre elles. Vraiment, là, c'est la plus belle illustration de ça. Et en même temps, c'est un vrai road movie à l'américaine. C'est tous les codes du pas du polar, mais du road trip avec les fugitifs. Sauf que d'un coup, c'est pas un fugitif qui s'est échappé de prison. C'est deux femmes qui ont échappé à un viol et qui sont accusées pour les mauvaises raisons. Et ce film, il m'a ultra impacté, et j'ai toujours voulu, j'étais fasciné par ce film, et j'étais fasciné par tous les films de John Cazavetes et des personnages de Gina Rowlands, qui est une actrice fabuleuse, et des personnages qui incarnaient des personnages formidables. Et je me rendais compte, quelque part inconsciemment, que non, les personnages féminins, c'est vachement plus intéressant que les personnages masculins. Et force est de constater que depuis Thelma et Louise, il y a combien de films qui ont été faits dans ce registre-là, sur ces sujets-là. C'est assez fou. Après Pulp Fiction, des Tarantinades, on en a bouffé des plus ou moins bons. Les Guy Ritchie, les John Woo, les machins, on en a fait des caisses et des caisses et des caisses. Des sous Thelma et Louise, moi je veux bien voir des sous Thelma et Louise. Et en fait, quand c'est des sous Thelma et Louise, c'est du Besson, et ça devient du Mel Gay, ça devient une pute et un Mac avec un flingue, et ça n'a aucun intérêt, ça ne raconte rien. Donc ça pose vachement la question, et j'ai toujours pas la réponse, cela dit. Mais du coup, c'était des personnages qui aussi, parce que c'est pas un hasard si j'écris ça. Moi, la figure paternelle n'a pas été là, le monde masculin il n'a pas été là, et j'ai assez vite compris que la problématique elle venait quand même pas mal de cet univers patriarcal. Donc, même si je le conscientisais pas de la même façon, et si je l'analysais pas de la même façon, en fait, d'un point de vue assez naturel, j'allais vers ça. Et quand j'ai écrit mon premier roman, je fais des longues réponses, non? Ça va. Vas-y, pardon.
dans ce livre-là, donc il y a trois personnages féminins, enfin quatre. Il y a quatre personnages féminins, bon, qui sont cabossés, on n'en dira pas plus. Mais il y en a une quand même qui a un pouvoir très singulier, qui est celui de pouvoir communiquer avec les morts.
Oui, c'est important d'avoir ça dans son entourage.
Alors, quel rapport tu as avec la mort?
Comme tout le monde, hein, ça pose plein de questions. Comme tout le monde, j'ai pas les réponses, hein, donc j'aime bien jouer autour de ça. Mais C'est pas très réjouissant comme perspective, je crois. J'ai vécu beaucoup de deuil dans ma vie. Ça a pas mal jalonné aussi mon adolescence et je pense que ça questionne beaucoup de choses. J'ai vécu un deuil très important à 14 ans et typiquement, on parlait de résilience, c'est toujours pas complètement résilié. C'est pas le bon terme. Mais voilà. Et après, le côté médium psychanalyste, c'était un jeu pour amener à nouveau du décalage dans cette croisière, parce que c'est intéressant d'embarquer une famille sur une croisière. On a du père, mais quand il y a une médium psychanalyste, surtout une médium dans la croisière, forcément, ça ouvre des portes narratives intéressantes. Après, moi, j'ai rencontré des médiums, j'ai fait des petits délires un peu autour de l'ésotérisme, très intéressant, qui font casser pas mal de choses par rapport aux a priori ou aux certitudes qu'on peut avoir, quoi.
Oui, parce que ce livre, il nous secoue un petit peu justement de ce côté-là, du côté des a priori, du côté de... Alors, pas de la certitude de pouvoir parler avec les morts, mais quand même, il gratte un petit peu de ce côté-là pour nous inviter à réfléchir au fait que, même absent, il se passe quelque chose.
Mais de toute façon, même absent, il se passe quelque chose. Et ça, qu'on soit dans quelque chose qui pourrait considérer comme de la superstition, ou de la fabulation ou la religion qui joue avec tout ça, en fait, les défunts, quand ils sont plus là, ils restent là, dans notre vie, dans notre façon de les appréhender avec le souvenir, avec les non-dits, avec ce qui n'a pas été dit, les rancœurs ou les manques. Donc là, c'est une fois de plus, c'est une façon de personnifier cette histoire-là et de dire, enfin, je veux dire, quand on vit un deuil, on continue à parler à la personne. On aimerait bien qu'elle nous entende. On va aller aux endroits où ils ont été enterrés, où les cendres ont été éparpillées pour essayer de se connecter, pour essayer de rentrer en communication, etc. Dans tout et ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les civilisations, il y a ce rapport au monde de l'invisible. Alors, c'est vrai que quand on parle d'ésotérisme, on va voir quelque chose qui est de l'ordre de la magie et du charlatanisme. Mais si on se puise dans d'autres civilisations plus ancestrales, ça, c'est intéressant parce que toutes les civilisations parlent de ce monde parallèle et de ce monde de l'invisible. Donc, j'aime bien creuser ça, essayer de tricoter. Alors, dans l'imaginaire, c'est vachement intéressant. Ça joue aussi sur les mécaniques d'œuvres que j'aime beaucoup. Alice au Pays des Merveilles, j'en parle souvent de ce côté et de l'autre côté du miroir, parce que l'autre côté du miroir permet toujours d'illustrer dans la symbolique des choses qui sont de l'ordre de la psychanalyse ou du très concret. Donc voilà, ouais, ça, je joue avec ces codes, mais... Si on avait le temps, je vous raconterais des choses que j'ai vécues et qui ont été dites, qui remettent pas mal de choses en question.
Chiche.
Non, voilà, après, quand on coupera le micro.
Non, parce que pour le coup, on a le temps. Ok. C'est un livre sur l'absence, alors? Parce que dans ce livre, la question de l'absence, elle est évoquée de plein de façons différentes.
C'est aussi sur l'absence. Ça parle. Il y a plein de textes et de sous-textes. Mais c'est un livre qui, avant même de parler de l'absence, c'est un livre qui parle du déni et du non-dit. Et c'est le truc qui revient dans tout ce que j'écris. Hein, c'est d'essayer de faire face à ce qu'on veut pas voir. On est la première personne à qui on monte, c'est soi-même, en enterrant ses traumatismes et ses névroses, en voulant pas les affronter. Et souvent, c'est parce que y a eu un amalgame de silences qui ont été posés dessus dans les différents traumatismes qu'on peut avoir eu dans le rapport à la famille, notamment, mais à d'autres endroits. Et c'est ce qui nous construit. Et de la même façon, c'est le masque, qui est aussi la thématique que j'utilise beaucoup, la caractérisation de Roy, enfin, Cabossé ne fonctionne que sur le masque. Je surcaractérise toujours mes personnages. Je dis souvent que j'ai une écriture très colorée ou très... je frôle avec la caricature ou l'archétype, c'est parce que c'est la comédia dell'arte. C'est le masque qu'on a et ce qu'il y a derrière. Tout ce que vous voyez de moi et tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas du tout la même chose. Et justement, on va couper le micro ou pas, tu vois. Et ça m'intéresse de décortiquer ce qu'il y a derrière chacun, le masque de chacun d'entre nous. Mais le masque, il est pour les autres, mais souvent, il est pour nous. Donc là, c'est vraiment l'idée de cette croisière, c'est que chacun, et le jeu qui est instigé par Milan, ce jeu d'énigmes pour avoir l'héritage, en fait, c'est pour peler l'oignon, c'est pour aller chercher derrière toutes ces pelures le cœur, quoi.
Et dans ce livre, vous utilisez quand même souvent, enfin plusieurs fois, une réflexion sur le suicide. Il y a quelque chose de ce livre qui nous invite à réfléchir symboliquement à ce qu'est une forme de renaissance.
Ouais, bah c'est ça, c'est la renaissance, c'est la chrysalide, c'est le phénix, c'est aussi le suicide, c'est quelque chose dont je parle souvent parce que c'est un échappatoire. Alors c'est un échappatoire quand d'un coup on se retrouve écrasé par des situations qui paraissent inextricables, et c'est le moment où effectivement on s'est pas confronté, où on s'est trop confronté, on n'a pas trouvé la sortie issue. Et effectivement, le suicide, c'est un peu la solution définitive, c'est de dire bon, ben je débranche quoi. Et là, ce qui était intéressant, je débranche comme ça, j'ai plus à affronter ni la douleur ni la problématique de. Donc, je condamne pas le suicide comme étant quelque chose de lâche. Hein. Je dis juste que c'est toujours la notion du disjoncteur. C'est je coupe le courant parce que c'est trop quoi. Mais effectivement, quand on parle de suicide, parce que là, en l'occurrence, c'est Aurore qui a des pulsions suicidaires, mais parce que je joue avec la mort et avec ce que ça représente, je la dédramatise vachement dans le roman.
C'est pas la seule,
mais elle est morte née. Et elle est née morte. Elle est née avec le cordon ombilical autour du cou. Elle est tombée dans le coma. Elle est morte et elle est revenue. Donc elle a un rapport à la mort très décomplexée. Donc elle a un côté, bon, je vais me suicider comme ça, je passe de l'autre côté parce que là, la teuf ici, elle est pas très rigolote, alors que celle d'après, elle est beaucoup plus sympa. Donc c'est une façon à nouveau décalée de parler de ces deux mondes qui sont plus poreux que ce que peut-être se compense. C'est qu'une façon d'illustrer des questions. J'ai pas de réponse.
Oui, mais parce qu'il y en a d'autres, des personnages qui sont quand même dans cette réflexion de j'arrête tout ou pas. Son frère réfléchit aussi, s'il se remet à boire, de la même façon, il sait que ça lui réussira pas. Son frère aîné, il sait aussi que s'il tombe dans l'eau, il risque d'y rester. Donc il y a plusieurs façons de se suicider.
C'est des multiples illustrations de la fuite, en fait. C'est la fuite pour ne pas se confronter à... Mais on fait, je pense, tout ça. C'est pas se confronter à l'instant T où il va falloir dire, bon, ben maintenant... La peur, elle gère, hein. elle crée ces mouvements, soit de fuite, soit ces amalgames qu'on crée autour de nous pour se protéger. Roy, dans Cabossé, il dit qu'il a un petit cœur fragile et que c'est pour ça qu'il a construit un bunker et qu'il fait 2 mètres sur 2. Mais et effectivement, chacun à leur façon, ils illustrent ça. Effectivement, Jules, il est parti en voilier pendant 10 ans. Il a littéralement plus mis les pieds sur terre. Lou, il est tombé dans la cam et dans l'alcool. C'est que c'est que de la fuite, de l'autodestruction. L'alcool, c'est une bonne façon plus aussi de se flinguer à la possibilité à percevoir les choses de façon claire. Et donc tout ça pour les amener à un climax de ces névroses. La gangrène de ces névroses pour qu'à un moment, ils se confrontent à ce qui fuit.
Mais vous les placez quand même dans une situation naturelle. Comme vous le dites, ils sont sur un bateau, ils vont jusqu'en Arctique, ils sont censés rencontrer une aurore boréale. C'est pas la première fois, je fais référence à vos scénarios de films et de dessins animés, que la nature joue un rôle très important. C'est-à-dire que, quoi, il faut un cadre pour réussir à dépasser cette fuite ?
Pas forcément, non, pas forcément. Là, c'est plus un cadre pour alimenter et l'imaginaire et un voyage onirique qui fasse un peu rêver. Donc, je pourrais faire le même. Je pourrais les enfermer dans une maison et dans une cuisine, la maison familiale en Auvergne.
Mais ce sera en Auvergne, ce sera quand même au milieu de la nature.
Ce sera en Auvergne parce que ma famille vient d'Auvergne et que Berthe était en Auvergne et que ça peut être, on peut faire ça dans un 2 pièces à Paris. Hein. C'est juste, on va plus se faire chier visuellement. Là, c'est mon côté, réalisateur où j'aime bien quand même donner un souffle visuel et épique à tout ça. Ouais. Et c'est vrai, comme jouer avec les codes de la mythologie, je trouve ça. Je trouve que ça alimente plus de choses dans la. J'aime bien décrire quelque chose d'extraordinaire dans une situation pour illustrer une situation ordinaire. Enfin, c'est la même mécanique que dans Petiot. Je ne sais pas si vous avez lu Petiot, c'est mon 4e roman. de l'histoire de Gus qui a raté sa paternité. C'est marrant, hein. Souvent, la figure paternelle chez moi n'est pas reluisante. Il a raté sa paternité, on lui retire la garde de sa fille. Et donc, pour reconnecter avec sa fille et pour plaider sa non-responsabilité de la situation, il prend l'hôtel dans lequel il est en otage et sa fille avec, et réclame un Boeing et 500 000 euros pour refaire sa vie au Venezuela. Donc c'est un échec annoncé, et tout le roman, c'est cette prise d'otage. Et en fait, la symbolique de cette prise d'otage, c'est un père qui est un loser flamboyant et qui est désespéré, et c'est un acte désespéré pour montrer son amour à sa fille. En fait, c'est juste une crise très ordinaire d'un père qui a foiré son truc et qui sait pas comment dire à sa fille qu'il l'aime, sauf que chez moi, il prend l'hôtel en otage. Mais voilà, c'est une façon bigger than life d'illustrer une crise très ordinaire qui peut arriver à n'importe qui. Et là, c'est pareil, c'est un voyage un peu plus outré, mais dans lequel j'espère chacun peut se retrouver des billes et qui rentre en résonance.
Vous diriez que votre écriture est pudique?
Ça, c'est une bonne question. Est-ce que mon écriture est pudique par rapport à moi ou par rapport à ce que je raconte? Est-ce que c'est pas la même chose?
Alors, je dirais les deux, mon capitaine, puisqu'on est sur un bateau, et d'une part, et d'autre part, parce que tout ce qui touche à la tendresse est délicat dans votre écriture.
Merci. Alors, la pudeur, oui, et en même temps, je suis complètement exhibitionniste, parce que ceux qui me connaissent, quand ils lisent mes romans, ils ont l'impression que je suis à poil, hein, complètement, je raconte ma vie, donc, mais c'est pas ma vie, mais il y a plein d'éléments de ma vie, et j'aime bien jouer à distiller des choses et à travers les personnages, à les transcender, à les amener ailleurs, à les magnifier, c'est une catharsis, quelque part.
En fait, vous faites la même chose que Milan, vous nous donnez des éléments, on est en quête pour savoir qui vous êtes au fur et à mesure de vos livres.
Ouais, et selon les éléments que vous tirez, je suis plus ou moins monstrueux. Et la délicatesse, bah, c'est important, la délicatesse. Ouais, ouais.
À cet endroit-là, vous diriez que vous êtes pudique?
C'est moins de la pudeur que sensible, en fait. Ouais, il y a une notion de la sensibilité, c'est-à-dire que j'ai envie d'être... Je suis une sorte de... Je joue avec l'ambiguïté, enfin pas l'ambiguïté, les deux couleurs qui sont la fermeté, la délicatesse, la rugosité et la sensibilité. Ça, je l'ai initié avec AOC. C'est-à-dire que j'ai envie quand même d'aller assez loin dans les thématiques de dénonciation, par exemple sociétale, mais j'ai envie de faire avec des personnages qui sont beaux et qui véhiculent certains d'entre eux qui véhiculent quelque chose de l'ordre d'une émotion sensible, et sans rentrer dans la sensiblerie. Et que ce soit même dans les scènes intimes, ça peut. J'ai écrit des scènes des scènes intimes ou même pas érotiques. Par exemple, dans Cabossé, je suis beaucoup plus frontal sur le cul pour dire les choses plus crûment. Parce que
Cabossé, c'est pas la même chose, hein. Moi, je parlais de tendresse, hein.
Ouais,
mais je parlais pas de culotte.
Justement, il y a vachement de tendresse dans Cabossé, alors que d'un point de vue formel, ça peut paraître rugueux. Donc en fait, la forme en fait prend plusieurs formes. Mais oui, la délicatesse toujours. Il faut que la délicatesse et la sensibilité. Pour moi, la sensibilité, c'est le terme le plus important parce que c'est un terme qui est souvent perçu comme quelque chose de l'ordre de la vulnérabilité. Et si on peut parler de l'injonction viriliste, parce qu'on peut parler beaucoup d'injonctions qui sont faites aux femmes, parce qu'il y en a énormément, il y a aussi beaucoup d'injonctions qui sont faites aux hommes, et notamment sur cette notion de la vulnérabilité et de la sensibilité. Et je pense que si on arrivait à rééduquer et à reformater, à déconstruire les hommes pour accepter que non, la sensibilité, en fait, c'est une des plus belles vertus qu'on peut avoir, c'est l'empathie, c'est l'écoute de l'autre, c'est la compréhension de ce qui nous entoure, et de ne pas être dans un truc de... On est des bonhommes. Ça paraît cliché de dire ça, mais en fait, c'est un des gros fondements de tout ce qui ne va pas derrière dans la construction des hommes et dans la construction de leur rapport à la femme.
Alors, vous diriez que vous êtes romantique?
Bien sûr. Bah oui, moi, je suis une fleur bleue, hein. je suis un bisounours. Moi, j'ai envie que tout le monde s'aime. Mais après, voilà, c'est de la grande naïveté. Mais oui, non, ouais, je suis un grand romantique. Moi, je suis pour les ces valeurs... Il n'y a que ça, il n'y a que l'amour, quoi.
Parce que dans votre livre, alors à nouveau dans celui-ci, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la rencontre amoureuse aussi.
Oui, bah toujours. Moi, il me faut, pour que quand j'écris, j'ai besoin que mes personnages, il y a un moment,
un
petit truc fleur bleue. Et ça, c'est intéressant parce que c'est tellement tarte à la crème, hein, l'amour. Mais c'est de dire comment on arrive à faire, à créer une histoire qui va naître et qui va pas être la même que celle qui a été écrite mille fois, et de trouver un peu le petit truc qui fait que c'est un peu différent. Et des belles émotions, typiquement, je parlais de Clint Eastwood, là, sur Route de Madison, qui est le film romantique. Bah, la scène de la poignée de la porte, je sais pas si ceux qui l'ont pas vu ou pas vu, la scène de la poignée de la porte, c'est un Graal, en fait, la portière. Réussir à refaire, et ça paraît anodin comme ça, moi j'y pense tout le temps quand j'écris, c'est de dire, le mec, il a réussi à synthétiser tout le dilemme de la vie de cette femme avec une main sur une portière, une poignée de portière. Et ça, réussir à faire passer ça dans un scénario, dans un film, dans un roman, c'est magique, parce que il pourrait faire des tartines de texte en disant « Elle se disait que peut-être elle aurait une autre vie avec lui, et je t'en fais 5 chapitres. » Et c'est pas intéressant, ou c'est... Et voilà, elle a juste ça.
Il a juste mis une poignée de porte.
Poignée de porte, et il y a un feu rouge qui va bientôt passer au vert.
Mais alors, pour vous, c'est quoi réussir sa vie?
Bah écoutez, on en reparle quand je serai à l'aube de ma mort. Enfin, je sais ce que c'est que la rater, par contre. Et j'ai eu des bons exemples. Une vraie leçon de vie, d'essayer de pas reproduire ces échecs. La notion d'échec, elle est pas anodine.
Ouais. Ce livre-là, il nous invite à réfléchir à ça aussi, quand même.
Ouais, toujours. Ouais. Je reproduis ça parce que. Parce que c'est une vraie bonne question, parce que il y a beaucoup de gens pour qui la réussite, réussir sa vie, hein, ça veut tout et rien dire. C'est quoi la réussite? C'est l'argent, c'est le succès, c'est pas ça. La réussir sa vie, c'est pour ça que j'amène souvent mes personnages au moment de la mort. C'est dire, voilà, quand tu te retournes et que tu regardes ta vie, il reste quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as construit? Et construit, c'est pas un empire, typiquement, c'est pas une carrière de Johnny Hallyday. Qu'est-ce que tu as construit? Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, d'où aussi le sablier dans l'histoire, c'est que le temps, on parlait de la mort, le temps est compté, et que bah, plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que en fait, j'avais l'impression que les cartes, on en avait plein au début, puis de plus en plus, on en a de moins en moins, plus on avance, et plus on a de moins de temps en fait pour être en paix avec tout ça. Et c'est vrai que quand le couperet il tombe, et pour une fois de plus pour avoir vu un couperet qui tombe sur un échec de vie, je me dis putain, en fait, c'est pas comme un jeu vidéo, il n'y a pas une deuxième partie derrière.
Il n'y a pas de game over.
Ouais.
Ça veut dire que à l'âge où vous êtes aujourd'hui, en ayant écrit ces films et ces livres, vous avez fait des choses qui étaient importantes à faire pour vous dans cette vie-là?
Oui, ouais, j'ai quand même fait j'ai quelques steps de choses que j'ai pu réaliser d'un point de vue personnel et d'un point de vue artistique. Moi, j'ai l'immense chance d'avoir un métier où mon travail, d'amener un pacte de rêverie et de réflexion. Et sur différents projets, et ça, c'est pas du succès de j'ai réussi à par exemple, Mamie Nougat, c'est un best-seller. On s'en fout que ce soit un best-seller. Par contre, l'impact que ça a eu sur certaines personnes, certaines lectrices, certains témoignages que j'ai pu avoir, mais il suffit d'un, hein. Et je me dis, ok, donc, au moins j'ai fait ça, ça va. Et c'est vrai que dans le truc dont je suis probablement le plus fier aujourd'hui, c'est ça, c'est vrai que ça a tellement secoué. Il y a beaucoup de trucs plus personnels, mais ça a tellement secoué le post-MeToo. Je suis content j'ai l'impression d'avoir réussi à trouver une place à un bon endroit. Je dis pas du tout que je suis qu'on peut pas questionner. Enfin, je suis loin d'être parfait du tout. Mais j'ai écrit un roman et je sais pas pourquoi il est rentré en résonance. Et j'ai eu des témoignages qui me disent ok, si ça s'arrête là, au moins. À certaines personnes, ça a touché au bon moment et je suis heureux et reconnaissant. Je suis pas fier, mais je suis reconnaissant.
Est-ce que vous avez quel rapport avec votre public?
Ça, j'ai un rapport assez intime en fait, parce que le public, quand il vient me voir, une fois de plus sur des sujets très durs, typiquement Luger, c'est intime parce que surtout quand les lectrices viennent me voir et qu'elles me parlent, et en peu de mots, je comprends. On n'a pas besoin de beaucoup se parler. Il y a 400 pages qui nous relient, quoi. Donc il y a eu un voyage qui a été fait avec Berthe, Et du coup, ça nous rentre dans une intimité très très forte tout de suite. J'ai des femmes qui m'ont dit des choses, on se connaît pas, et qui m'ont parlé de traumatismes, de viols, de tout plein de choses très très intimes. Et que ce roman les a aidés à un certain endroit, et on se connaît pas, et en quatre phrases, ça s'est dit, c'est très fort. Et dans un autre registre, je parle beaucoup de Luger, parce que Luger, c'est vraiment un roman qui m'a dépassé. Après, je pourrais parler en cinéma, j'ai fait un film qui s'appelle Moon, le gardien de la lune, qui est un film où j'ai voyagé dans le monde entier avec, je l'ai montré en Arménie, à Meknès, au Canada, etc. Donc j'ai vécu des choses très très fortes avec les enfants à un autre registre, donc il y a aussi ça. Mais c'est vrai que par exemple, quand il y a eu la pièce de théâtre, c'est assez beau. Quand moi j'ai écrit Les 102 ans de David Berthe, donc en étant un garçon, quand on a fait la pièce de théâtre et que Josiane, Karl, qui l'incarne sur scène, du haut de ses 85 quelque chose, Josiane, quand elle a embrassé, elle a prononcé les mots que j'ai écrits, donc elle les a incarnés en tant que femme de 85 ans, donc a forcément un vécu par rapport à ces sujets-là, qui est beaucoup plus incarné que le mien, hein, clairement. Il y a une sorte de validation incroyable du propos. Donc ouais, tous ces petits moments-là, pour moi, c'est des petits bijoux que je me dis, bon, je me repose pas du tout sur mes lauriers, mais je me dis, bon, je me suis pas battu pour rien, quoi.
Ce sera ma dernière question à Benoît Philippon. Dans ce livre, il y a un personnage qui est pas tout à fait en retrait, c'est pas le mot, mais un personnage en tout cas qui n'est pas celui qui prend le plus de place dans ce livre. C'est un personnage qui est très touchant. C'est un personnage dont on comprend que toute sa vie, il a été un peu mis de côté. C'est la mère. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les mamans?
Je vais rien dire parce que ma mère elle va écouter. je dirais que oui, évidemment, il y a mille trucs à dire sur les mamans, mais
parce que vous avez quand même écrit ce personnage,
ouais. J'ai écrit ce personnage parce qu'effectivement, elle a un rôle ultra ingrat, Cristal, dans le film, dans le roman, parce que elle a aussi ses. Elle a aussi ses fautes, évidemment, mais elle tient la barque, pour reprendre l'analogie. Et en fait, pour résumer, je citerai la phrase de Jules, qui est un des dialogues dont je suis le plus content, parce qu'il synthétise bien, il finit par demander, par dire merci à sa mère. Donc je pense que c'est ça, la première chose qu'on ne fait pas assez, merci maman. Il lui dit, des fois on focalise tellement sur l'absence du père qu'on oublie la présence de la mère. Et ça résume un peu une problématique qui, je pense, qui résume aussi les torts de l'impact masculin sur notre monde. Donc ouais, les mères, chapeau, parce qu'effectivement, il y a ça qui est en plus, quoi, à gérer, la défaillance du père.
Merci beaucoup, Benoît Philippon.
Merci. À vous.